Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Scénarii, une chaîne éditoriale libre pour approcher autrement la production de contenu et la collaboration, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique « Le libre et la sobriété énergétique » de Vincent Calame sur le « Low Tech » et aussi la chronique « Le libre fait sa com » sur l'initiative « Libre en fête ». Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative, responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 24 janvier 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Bonjour Fred.
Bonjour Isa, belle émission à vous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Vincent Calame, bénévole à l'April, est présent aujourd'hui au studio pour sa chronique « Le libre et la sobriété énergétique, exploration de la contribution du libre à un enjeu politique, social et environnemental ». Bonjour Vincent.
Bonjour Isabella.
J'ai noté que le thème que tu aborderas aujourd'hui est le low-tech, on est tout oreille.
Tout à fait, alors je vous propose donc aujourd'hui de parler du concept de low-tech et je vais le faire à partir d'un ouvrage, le numéro 21 de la revue Passerelle, une revue éditée par Rétimo, paru en avril 2020 et dont le titre est justement « Low-tech face au tout numérique, se réapproprier les technologies ». Alors, précisons que cette revue est disponible en format papier au prix de 10 € ou librement téléchargeable au format PDF et EPUB sur le site coredem.info et vous trouverez l'adresse exacte dans les références de cette émission. Alors, cette revue se présente sous la forme d'une sélection d'articles, parfois publiés par ailleurs, et écrits par les personnes universitaires, militantes ou praticiennes, ou les trois à la fois. Alors certains des noms sont sans doute déjà connus de nos auditrices et auditeurs, comme Philippe Borel, qui est le réalisateur du documentaire « La bataille du libre ». Bref, avec cette sélection d'articles, ce numéro essaye de faire un panorama des réflexions et expérimentations sociales et politiques autour de la question des low-tech.
Alors, mais alors de quoi parle-t-on exactement quand on parle de low-tech ? Pour reprendre une des phrases de l'introduction de la revue, ça se remarque pas du tout que j'avais oublié de lire ma question.
Bon, même avec un faible niveau d'anglais, on voit le jeu de mots fait en opposition high-tech, qui fait partie du jargon promotionnel des nouvelles technologies depuis plusieurs décennies. La basse technologie est une réponse à la critique de la haute technologie. Alors, la revue ne cache pas que le terme low-tech, introduit par l'ingénieur Philippe Biwi dans son ouvrage « L'âge des low-tech » en 2014, fait débat. Elle retient comme définition qu'est low-tech la technique utile, durable et accessible ou appropriable. Les low-tech répondent à trois types d'enjeux qui constituent les trois parties du numéro, d'ailleurs de la revue, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux et des enjeux politiques. Alors, premier point de débat intéressant, la revue fait le choix assumé de s'intéresser au low-tech dans le numérique. Alors, ça peut sembler contradictoire d'accoler low-tech et numérique, car on pourrait justement réduire le low-tech à ce qui n'est pas numérique. Par exemple, le tourne-disque avec des 33 tours vinyles serait low-tech et le lecteur MP3 high-tech. Mais comme le rappelle la revue, le numérique a un tel impact dans notre vie actuelle qu'ignorer le numérique serait réduire le low-tech à une seule niche. En outre, comme l'aborde l'un des articles à propos de la région de Cusco au Pérou, il faut se garder tout romantisme low-tech. Lorsque le low-tech est subi par manque de moyens de se doter d'outils plus efficaces, il n'a rien de séduisant. Et n'oublions pas que la force des gadgets high-tech, au-delà de leur utilité intrinsèque, contestable et souvent réelle, c'est que leurs protections sont un marqueur social. Apple l'a bien compris en croisant high-tech et code de l'industrie du luxe. Enfin, pour conclure ce premier point de débat, je prendrai ici une phrase issue de l'introduction. Penser le low-tech numérique permet de davantage problématiser notre rapport aux technologies dans un contexte où Internet joue d'ores et déjà un rôle absolument crucial.
Et quand il est-il du libre dans la revue ?
Oui, alors, il est présent, bien sûr, comme exemple dans plusieurs articles. Il y a la présentation du documentaire La bataille du libre, comme je l'ai indiqué en introduction, et surtout un article de Lionel Morel intitulé Low-tech, logiciel libre open source, quelle synergie à développer ? Alors, dans cet article, l'auteur nous titille un peu, hein, nous autres militantes et militants du logiciel libre, en rappelant que des grandes entreprises fleurons de la high-tech utilisent du logiciel libre et contribuent, et que suivant certains chiffres, 80% de l'architecture d'Internet est constituée par des logiciels libres. Autrement dit, je cite l'auteur, « Le logiciel libre, qui met à l'origine en avant les enjeux d'émancipation liés à l'informatique, s'est peu à peu fondu dans la technostructure qui fait aujourd'hui peser un poids insoutenable au système Terre. » Donc, l'auteur appelle ainsi le monde du logiciel libre un sursaut et suggère que l'approche low-tech permettra au logiciel libre, je cite encore, de renouer avec sa philosophie originelle, diminuer sa dépendance aux grandes entreprises et mieux prendre en compte les enjeux écologiques. Alors, ben, comme piste, l'auteur cite les chatons, les collectifs des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, que nous connaissons bien à cette antenne. Et la décentralisation induite par ce collectif est typiquement une approche low-tech. Enfin, il termine son article sur la question du modèle économique adapté. Et là, c'est du côté de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qu'il se tourne. Voilà pour aujourd'hui. Alors, vous noterez que je n'ai pas une seule fois utilisé le terme sobriété énergétique, hein, qui est le thème principal de ma chronique. Mais je pense qu'on comprendra que se réapproprier une technologie, ce qui est le sens profond du mouvement low-tech, c'est le meilleur moyen d'éviter l'emballement et un usage effréné de ressources qui se raréfient. Bon, donc, et qu'on se rassure, hein, la sobriété reviendra en force à la prochaine chronique.
Je suis rassurée, merci Vincent, et je te donne rendez-vous au mois prochain.
Tout à fait.
Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, comme annoncé, nous parlerons de la chaîne éditoriale libre Scénari. Nous allons maintenant écouter « C'est du propre » par Patatra. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
De façon efficace, faut qu'on efface tout ce qui dépasse, tout ce qui se déplace, sans déranger, par tout ce qui se passe, je suis dérangé. Par tout ce qui se passe, je suis dérangé. C'est du propre qu'il nous faut. Faut pas que ça déborde trop. Trop de saleté, trop d'effort, faut des si ça sonne. J'ai flanché, enchaîné à cette idée fixe.
J'essaie de penser
que tout doit être parfaitement lisse. Donc j'essaie de poncer. C'est la vis pour dresser la vis, c'est ma devise, c'est mon habit de masquer les vis.
Il nous faut
saleté trop de défauts.
C'est du propre qu'il nous faut.
Nous venons d'écouter « C'est du propre » par Patatras, disponible sous licence libre, art libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur Scénari, une chaîne éditoriale libre pour approcher autrement la production de contenu et la collaboration. Ce sujet a été préparé par Laurent Costi, chargé de mission éducation et commande numérique au CMEA, qui animera également l'échange avec nos deux personnes invitées, Jean-Sébastien Barboteux, chargé de mission et formateur académique à la délégation académique au numérique éducatif du rectorat de Versailles, et Katia Kelnek, ingénieure pédagogique à la direction d'appui à la pédagogie et l'innovation de l'Université de Lille et également vice-présidente de l'association Scénari. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. Je passe donc la parole à Laurent Costi qui animera ce sujet.
Merci beaucoup Isabella. Alors je vais peut-être faire une petite réintroduction par rapport au début de l'informatique, hein, avec l'avènement de l'informatique personnelle dans les années 90 et l'arrivée dans les foyers et même dans le milieu professionnel du traitement de texte, l'utilisateur et l'utilisatrice ont été conditionnés à traiter en même temps du fond et de la forme lorsqu'il s'agissait de produire des contenus. Donc là, dans l'émission, il va s'agir de regarder comment penser autrement la production de contenu, et Scénari et les chaînes éditoriales vont nous aider à appréhender une autre approche et pour laquelle on va essayer de vous donner quelques avantages. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'on a invité Katia Kelenek. Elle va se présenter, donc elle va préciser ce qu'a dit Isabella, et puis Jean-Sébastien Barboteux qui va aussi affiner sa présentation, et on rentrera évidemment dans ce que sont les chaînes éditoriales, ce qu'elles peuvent apporter et puis finalement un peu l'histoire de Scénari, qui est une chaîne éditoriale qui commence à avoir un peu de recul. Donc je vais passer la parole à Katia pour qu'elle puisse se présenter, et puis après à Jean-Sébastien pour qu'il nous donne rapidement leur parcours par rapport à la question libriste en général, mais évidemment par rapport à la question des chaînes éditoriales. Katia, est-ce que tu nous entends ?
Bonjour, c'est bon, vous m'entendez ?
Très bien.
Très bien, parfait. Donc voilà, je suis Katia Kelenek, ingénieure pédagogique dans l'enseignement supérieur depuis 2004 et puis utilisatrice de Scénari, on va dire, depuis qu'elle a été partagée, parce que initialement elle a été développée à l'UTC.
Et donc, alors moi, l'UTC, excuse-moi, je te coupe, l'UTC 2, tu peux nous préciser ?
Ah, Université de Technologie de Compiègne.
Voilà.
Excuse-moi, oui, tu fais bien de préciser. Voilà, donc utilisatrice, on va dire, de Scénari depuis ses premiers jours. Alors après, sur des modèles pour créer des formations en ligne. Et puis aussi, comme c'est un logiciel libre, j'ai pu aussi intervenir et créer un nouveau modèle, donc m'approprier cet outil. On pourra y revenir plus tard s'il y a des questions là-dessus. Et donc, au niveau de mes usages, donc j'accompagne les enseignants-chercheurs des universités, donc plutôt enseignement supérieur, à l'utilisation de ces outils-là, leur prise en main. Et puis aussi, on développe pas mal tout ce qui est jeu sérieux. Donc, on a créé un moteur de jeu sérieux pour simuler la professionnalisation de la formation. Donc, on utilise en faculté de pharmacie, à la fois à l'Université de Lille, de Nantes, de Bordeaux, et aussi en médecine, en droit et à l'INSPE. Et on utilise aussi Scénari pour tout ce qui est documentation logicielle. Donc là, on est plutôt pas sur des usages de formation, mais d'accompagnement des utilisateurs à l'usage du numérique. Et puis donc en parallèle, je me suis aussi investie assez rapidement dans l'association Scénari, donc qui regroupe les utilisateurs, une communauté d'utilisateurs de ce logiciel pour pouvoir justement faire des retours d'expérience et faire évoluer cet outil. Et donc un engagement depuis le début, sa création en 2013, et puis après dans le bureau en tant que vice-président, puis président, puis vice-président. C'est quelque chose qui vit et qui réunit de nombreux acteurs.
Très bien, merci pour cette présentation, cette première présentation, cette première approche. Je vais passer la parole à Jean-Sébastien Barboteux.
Bonjour, donc Jean-Sébastien Barboteux, chargé de mission ENT, à la délégation académique au numérique éducatif. Alors mon histoire du logiciel libre a commencé il y a très très longtemps avec les débuts du web et SPIP, le système de publication pour l'Internet partagé, moteur de site web. Et avec le temps, les logiciels évoluent, puis nos centres d'intérêt évoluent. Donc dans le cadre de mes formations, j'ai été amené à essayer de concevoir des documents de formation, des supports de formation, et des documents d'accompagnement pour des projets d'établissement scolaire. Et c'est comme ça que je suis arrivé en fait au sujet de la chaîne éditoriale numérique. C'est essayer de trouver une façon simplifiée de produire des documents pour différents contextes. L'idée était de factoriser, d'éviter de devoir refaire X fois le même document dans différents formats.
Ah, ça, c'est ce que détestent les informaticiens, c'est refaire des choses qui ont déjà été faites. Donc ça permet de répondre en partie à cette problématique-là. Alors, on va essayer d'expliquer le plus clairement possible aux auditeurs et aux auditrices ce qu'est une chaîne éditoriale. Alors, comment vous la définiriez ? Je donne la parole à Katia dans un premier temps.
Très bien. Donc, une chaîne éditoriale, c'est un outil qui permet de se concentrer sur le document et non sur la forme. Donc, on va produire un document de formation, un document qui a un objectif, un document pour faire une documentation. Et après, on peut en avoir plusieurs formes. Donc, par exemple, une forme web, une forme dédiée à l'impression, par exemple, un format PDF ou ODT, un format dédié pour les mobiles, etc., etc., pour les liseuses, par exemple. Et donc, l'auteur va se concentrer sur le fond avec une intention. Donc, dire qu'un élément est important, on ne dit pas qu'il est en gras, qu'il est en rouge, on dit qu'il est important. On donne des éléments d'arborescence, on dit que c'est un lien. Et après, par contre, automatiquement, la mise en forme est faite et elle est cohérente de partout. Donc, tous les éléments importants sont, par exemple, en gras et bleu, si c'est la charte graphique. Et on écrit une seule fois pour avoir différents supports. Donc, j'écris une fois, j'ai mon diaporama, j'ai mon site web, j'ai mon PDF que je pourrais imprimer.
Merci. Jean-Sébastien, est-ce que tu veux compléter un peu cette présentation ?
Je pense que Katia a bien résumé l'enjeu, hein, c'est passer le moins de temps possible et pouvoir répondre à une diversité de situations.
D'accord. Alors, vous aviez, dans la préparation, vous m'avez mis deux termes un peu barbares qui étaient vivisic, vivisim. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que sont ces deux termes, Jean-Sébastien ?
Alors, en fait, dans notre culture du traitement de texte et puis de l'écrit, on a l'habitude de produire des documents dans des interfaces qui gèrent la forme et le fond. Et en fait, la traduction de WYSIWYG, c'est « what you see is what you get ». Donc, la différence que l'on peut avoir avec une chaîne éditoriale, c'est que la forme est séparée.
Alors,
«
what you see is what you get », en français, ça donne ?
Alors là...
Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez.
Voilà.
Un aperçu en direct du rendu final, mais ça c'est possible quand il n'y a qu'un seul document final.
Tout à fait, très bien, merci. Et donc le vivisim alors du coup ?
C'est what you see, what you mean, c'est vous voyez ce que vous pensez. Donc vous pensez que cet élément est important, mais vous ne savez pas exactement comment il sera mis en valeur.
Très bien, merci. Donc là, effectivement, ça donne une bonne image de ce que peut de l'approche d'une chaîne éditoriale. Finalement, hein, c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant pour les gens qui ne connaissent que l'outil traitement de texte comme au grand public, on va dire, où en fait ils ont le résultat, la production finale sous leurs yeux constamment. Avec des avantages et des inconvénients. Moi, je me rappelle, je me battais avec les puces. Je ne comprenais pas, par exemple, après avoir fait appuyer sur la touche entrée, que la puce, elle se décale, la ligne du dessus. Enfin, voilà. Il y a évidemment dans ces approches-là aussi des inconvénients. Alors, quels sont les, je sais pas si on peut parler davantage sur la chaîne éditoriale. Quels sont les avantages ? Ben, on en a déjà un petit peu parlé par rapport à un traitement de texte classique.
Alors, j'apporte un premier élément de réponse, bah c'est clairement ce gain de temps, parce que l'exemple de la puce, où est-ce que je place l'image, est-ce que je pense à tous les... quand je prépare un diaporama, est-ce qu'il sera vraiment lisible selon la taille de police, etc. Tout ce temps passé sur le fond, ou après, si on ne maîtrise pas vraiment les styles avec les outils bureautiques, où je vais vouloir mettre à jour tous mes titres, et si je peux utiliser les styles, bah, je vais passer beaucoup de temps. Là, on a un gain de temps énorme sur les avantages. Je ne sais pas si vous complétez pour les avantages avant qu'on aborde les inconvénients.
Sur ce point-là, si on se réfère à des pratiques de bureautique traditionnelle, en fait, Scénari permet de s'affranchir du moteur de style de Word qui permet de gérer les contenus. Le style est géré par l'outil Et il est produit de façon uniforme pour tous les contenus.
Encore faudrait-il que sous un traitement de texte, on utilise les moteurs de style. Quand on regarde finalement les usages de tout le monde au quotidien, très très peu de personnes, moi je sais pas, au doigt mouillé, je dirais 5% des personnes utilisent les moteurs de style, donc savent effectivement mettre à jour directement l'ensemble de leurs titres, mais dans la majeure partie des cas, on voit des gens qui font des copier-coller avec le pinceau, remettent en titre 1, enfin font un copier-coller du titre 1 sur le titre 2 pour le mettre en valeur, et du coup quand ils doivent changer le style, et ben ils font tout ça à la main. Donc là aussi évidemment, quand on veut s'affranchir justement de ces problématiques de forme, la chaîne éditoriale peut être une bonne réponse. Alors on y viendra tout à l'heure peut-être un peu sur les limites, hein, mais effectivement c'est vraiment une autre approche. Alors ce que vous m'aviez spécifié aussi dans la préparation de l'émission et que je trouve extrêmement intéressant, c'est cette question du guidage, de la structuration. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu par rapport à ça, Katia?
Oui, donc comme on est sur un document qui a une structure, l'auteur est obligé de se lier à la structure. Je vais donner un exemple simple. Si vous prenez un outil bureautique, vous n'êtes pas obligé de mettre un titre. Si c'est un document sans titre, il s'en fiche. Alors que là, si c'est un document qui est formalisé avec un titre, des chapitres, donc des titres de chapitres, etc., vous serez obligé de remplir le titre. Donc ça structure le document. Et ce qui a un avantage énorme, par exemple, pour respecter tout simplement les règles de l'accessibilité numérique. Il sera nécessaire d'avoir un document structuré pour qu'il soit accessible à tout type de personnes, alors qu'un document de type bureautique ne contraint pas l'auteur à toutes ces règles-là.
D'accord, mais alors j'imagine que quand on prépare par exemple une documentation d'un logiciel et qu'on prépare un cours en université, bah, finalement la structuration du logiciel au départ n'est pas la même. Comment on fait ?
C'est parce qu'il y a des modèles différents. Selon le type de document qu'on veut faire, on va avoir un modèle qui est quelque part dédié par rapport à ce type de document. Donc Opal est le modèle de document dédié à la formation en ligne. Donc on retrouve des grains de contenu, des activités d'apprentissage, des activités d'évaluation et qui sont tout à fait attendues pour concevoir une formation en ligne, à distance ou en présentiel enrichi. Alors pour une documentation logicielle, on va avoir des procédures, on va avoir des écrans descriptifs. Et c'est là où Docquel est le modèle tout à fait adapté pour produire de la documentation.
Donc si je comprends bien, vous parlez de grains, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des briques qui sont déjà préparées pour la structuration du document, et puis finalement, on a une forme de souplesse par rapport à ces briques-là pour construire son document, ou est-ce que c'est rigide et finalement, on n'a pas d'autre choix que de suivre la structuration du document, enfin du squelette, on va dire.
Alors, il y a une certaine liberté, il y a des choses obligatoires, le titre est obligatoire, par exemple, mais après, sur la structure, le nombre de chapitres, la profondeur d'arborescence, tout ça est libre. Et puis, on peut même le découper comme des briques de Lego. Donc, par exemple, mon grain de contenu, je peux aller le réutiliser dans 3 contenus différents. C'est un petit peu comme si j'avais un chapitre d'un document, d'un polycopier, qui est commun sur 3 années de formation différentes. Je le mets à jour une fois. Et après, il sera dans mes 3 polycopiés parce qu'il est commun entre les trois documents.
Donc oui, effectivement, quand on entend ça, ça j'imagine que ça peut tenter certains enseignants par rapport à la mise à jour de documents. Je trouve que là, on a une pertinence de la chaîne éditoriale qui me semble intéressante pour l'enseignement, entre autres, mais aussi pour d'autres formes. Merci déjà pour cet éclairage. Je pense qu'on y voit un petit peu plus clair sur ce qu'est la chaîne éditoriale. Alors, je vous cache pas que moi, j'ai expérimenté ça en milieu associatif il y a une dizaine d'années, donc je suis un petit peu en retard un peu sur l'usage, hein, mais j'avais trouvé effectivement, alors c'est un petit peu, c'était à l'époque rude un petit peu en approche, mais je trouvais finalement cette logique de pouvoir ne s'attacher qu'au fond extrêmement pertinente et de générer très rapidement des formes différentes, hein, un site web ou un document papier. Ça c'est une force que j'avais beaucoup appréciée dans Scénari à l'époque. Bon, alors encore une fois, ça a évolué. On viendra un peu sur justement les évolutions de Scénari tout à l'heure, en particulier une forme web qui va, My Scénari, qui va être un peu explicité. Mais je trouvais déjà qu'il y avait une approche qui était extrêmement intéressante. Voilà, moi, mon métier, c'était pas de faire de la mise en forme, même si j'apprécie aussi à un moment donné choisir mes couleurs, choisir la couleur de mes titres, mais à un moment donné il faut que je dépasse ça pour me concentrer sur le fond, puisque c'est plutôt mon métier, quoi. Voilà, alors c'est ça qui peut peut-être bloquer parfois certaines personnes, hein, parce que il y a des gens qui sont attachés à voir très vite la mise en forme en même temps. Elles avancent en fait sur le fond et la forme en même temps, mais si on n'a pas de qualité sur ces questions-là, on perd beaucoup, potentiellement beaucoup de temps. On va peut-être remonter justement un peu sur l'histoire de Scénarii. Comment c'est né, comment ça a été créé. Évidemment, si on peut parler un petit peu de licence libre, j'en serais heureux dans cette émission. Et puis parler de l'association, pourquoi et comment ça s'est structuré après au fil du temps. Alors l'histoire, qui c'est qui veut aborder ça? C'est peut-être plutôt.
Moi, je veux bien.
Oui, voilà. Merci.
Donc, du coup, Scénarii, en fait, c'est un projet issu, quoi. Ça vient d'un projet de recherche autour de la recherche documentaire en 99, donc projet à l'Université de Technologie de Compiègne, avec AXA Assurance, qui devait créer des modules de formation e-learning. Et donc, il y a eu un travail d'ingénierie documentaire sur cette question des supports pédagogiques. Donc, ils ont fait un prototype avec une chaîne XML, si je rentre un peu plus dans les détails au niveau technique. Et donc, après, il y a eu d'autres acteurs qui ont été intéressés pour utiliser cet outil. Et puis, à force qu'il y ait de plus en plus d'acteurs et de collaborations, l'Université de Technologie de Compiègne n'est pas un prestataire service. Et donc, ils ont créé une entreprise pour pouvoir développer cet outil. Et il me semble que le choix du libre a été fait dès le début. Donc en 2004, il y a eu la création de la coopérative Télis, donc qui est la société éditrice des principaux modèles et du cœur de Scénarii, et qui est toujours la société qui développe le cœur de Scénarii. Et en 2005, en 2005, la libération du code. Et donc à partir de là, une communauté d'utilisateurs a commencé à se créer, à faire des retours d'usage, à s'approprier l'outil. Donc ce que je citais tout à l'heure, moi, mon exemple, en 2008, nous, on a créé Topaz, qui est une autre chaîne éditoriale qui permet de faire des livres dont vous êtes le héros, quelque part. Donc des parcours non linéaires, inspirés on a repris les briques d'Opal, mais on les a réorganisées autrement. Par contre, là, l'entreprise Télis a principalement des clients, elle n'est pas animateur communauté. Et c'est là où on s'est dit, il manque un élément autour de cette chaîne éditoriale libre. C'est d'avoir un acteur qui puisse animer cette communauté, faire du lien. Et c'est là qu'il y a eu des premières réflexions pour la création d'une association. Il y a eu un grand événement pour les 10 ans de la chaîne éditoriale pour réunir un peu tous les acteurs. L'idée, elle a continué à avancer. Et en 2013, on a créé l'association Scénarii lors des rencontres à Toulouse. Donc on s'est mis à créer un événement une fois par an pour réunir toute la communauté, discuter des évolutions, faire des retours d'expérience, discuter de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est ce qui fait toute la richesse d'un logiciel libre, c'est justement que tout le monde puisse prendre part à son évolution et à imaginer les solutions de demain. Et donc, cette association, aujourd'hui, elle a un bureau composé de gens originaires de différents types d'institutions. Il y a du privé, il y a du public. On a des adhérents aussi qui viennent de partout. Donc, j'ai regardé les chiffres. L'année dernière, on avait des 151 personnes physiques, donc des gens uniques, 159 personnes morales, donc là des universités, des entreprises, 11 prestataires et 2 concepteurs. Donc les concepteurs sont ceux qui créent des modèles. Et donc cette association, elle est là pour créer du lien, remonter aussi les besoins. Donc c'est là où par exemple il y avait un besoin d'accompagnement sur l'utilisation. Ce que je disais tout à l'heure, moi il y a 10 ans j'utilisais, c'était quand même un peu dur à prendre en main. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de proposer My Scénarii. C'est-à-dire qu'on adhère à l'association et on peut bénéficier d'un service avec Scénarii en ligne, un serveur web qui permet de publier le site web associé. Donc, par exemple, pour les associations, c'est vraiment très agréable. Pour aussi les lycées, qui n'ont pas toujours des services informatiques dédiés pour accompagner sur les outils numériques. Donc on propose aussi donc cet événement annuel qui sont les rencontres Scénarii pour pouvoir réunir la communauté, des forums d'échange et puis on a surtout 2 salariés qui permettent d'animer cette communauté. Donc Loïc Alejandro qui est notre directeur et qui met vraiment beaucoup de dynamisme dans notre association et Quentin Duchemin, notre administrateur système.
Loïc qui nous a beaucoup aidé à préparer l'émission d'ailleurs et je le remercie au passage. D'accord. Très bien. Merci, merci pour ces éclairages par rapport à l'association. Donc effectivement, c'est une communauté qui est née donc en 2013 et qui vit. Hein, donc 150 adhérents personnes physiques, j'ai entendu, et 150 adhérents personnes morales. Donc du coup, ça c'est top. Et puis ça permet d'améliorer le logiciel. Alors du coup, on a évoqué la libération du code en 2005. Quelles sont les licences qui sont utilisées là ou les licences qui sont utilisées attachées à Scénarii? Et quelles sont finalement les licences, comment sont articulées les licences vis-à-vis des modèles aussi qui sont proposés, puisque les modèles, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement différents squelettes qui permettent de produire des choses déjà un peu ciblées, comme soit des productions de cours, soit des livres dont vous êtes le héros pour Topaz, qu'on évoquait tout à l'heure, Dokiel plutôt pour la production de documentation logicielle. Donc voilà, comment s'articule la question des licences avec tout ça? Est-ce que Jean-Sébastien veut répondre ou non? Ah, pas Jean-Sébastien, qui semble moins à l'aise sur ces questions-là. Bah, écoute, je t'en prie.
Alors, je vais pas être hyper à l'aise non plus, mais moi, de ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a 4 licences principales qui sont proposées. Alors, MPL 1.1, GPL 2.0, LGPL 2.1, Cécile 2.0, pour les modèles qui sont diffusés librement. Et après, effectivement, il y a certains modèles qui ont été produits et dédiés de façon spécifique. Par exemple dans le cadre de prestations proposées par Kélis. Après nous aussi on a fait une déclinaison d'un des modèles qu'on utilise en interne à l'Université de Lille, mais dans lequel on ne se sent pas d'assurer un support aussi, parce que quand on met dans le livre, ça veut dire que derrière on documente tout correctement, etc. Donc on va dire qu'il y a les deux types d'usages autour de Scénarii. Par contre le cœur lui est complètement libre.
D'accord. Donc il peut y avoir des modèles qui sont pas pour l'instant sous licence libre, mais parce que justement tu l'expliques, c'est parce qu'il y a une conscience de vouloir accompagner et que si c'est pas structuré pour accompagner, on préfère ne pas mettre en licence libre pour cette raison-là. C'est ce que j'entends.
C'est ça.
Très bien, merci beaucoup pour ces éclairages, encore une fois. Est-ce que on a des exemples d'usage qui pourraient illustrer un peu Scénarii et ses usages? Alors on a des noms d'entreprises. Alors bon, je précise tout de suite que dans le pad de l'émission, on a mis quelques liens de sites qui ont été produits avec des modèles Scénarii. Donc là, vous pourrez les retrouver sur le pad de l'émission. Ça vous donnera un aperçu de ce que ça peut donner. Mais est-ce qu'on a d'autres exemples d'usage à préciser?
Peut-être sur le prolongement de Kélis, prestataire de services, le réseau Canopé. Alors, le réseau Canopé, c'est une agence publique de l'éducation nationale qui a pour vocation à former, à produire des documents d'accompagnement. Donc le réseau Canopé a commandé à Kélis un modèle documentaire adapté au second degré. Et on peut l'utiliser également dans le premier degré, mais plutôt sur les CM1, CM2. Donc en fait, c'est une déclinaison d'un modèle documentaire qui est adapté à l'enseignement du second degré, qui intègre beaucoup d'éléments didactiques qui sont utilisés au second degré. Alors cette offre de service, elle est gratuite, elle est pour tous les enseignants de France. Et vous avez une offre de service d'hébergement des contenus sur un espace dans les nuages, avec une version en fait marque blanche de My Scénarii, et puis une version logicielle qui est proposée en deux versions maintenant. Une version simplifiée qui permet de s'approprier la chaîne éditoriale de façon simple, avec peu de fonctionnalités, et puis une version experte sur laquelle on retrouve en fait tous les éléments de conception qu'on utilise dans les autres modèles documentaires de Scénarii, que ce soit Opal ou Dokiel. Donc ça, c'est un service qui est accompagné par le réseau Canopé et les ateliers du réseau Canopé. Donc il y a une offre de formation sur tout le territoire national autour d'une version d'un modèle documentaire qui est porté par une agence de l'État. Voilà. Alors, je sais que de mémoire, on a utilisé le modèle Dokiel pour faire de la documentation pour servicepublic.fr de mémoire. Katia pourra me le confirmer, je crois. Et après, c'est utilisé essentiellement. Enfin, moi, de ce que j'ai vu quand je suis arrivé dans Scénari dans les années 2015-2016, c'était surtout un outil qui était utilisé dans l'enseignement supérieur. Mm-hmm. Et que l'entrée dans Scénari dans le secondaire met beaucoup de temps, parce qu'en fait, il y en a besoin d'un certain niveau d'abstraction. Alors c'est quelque chose qui évolue beaucoup maintenant dans l'enseignement du second degré, puisque on fait de la formation hybride et que par le biais de la formation hybride, on incite les enseignants, les formateurs à expliciter un certain nombre de choses. Et puis quand on a explicité ses contenus, ses scénarios, c'est beaucoup plus facile pour remplir les cases dans Scénari. En tout cas, c'est comme ça que je suis rentré dans cette solution-là.
D'accord, donc c'est en train de se développer un peu dans le secondaire, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, je vous ai dit dans le pad de l'émission, je parle bien de la page de l'émission, évidemment vous aurez compris, je me permets de corriger. Et alors, du coup, puisqu'on parle de formation à distance, la place de Scénari et par rapport à d'autres objets que sont par exemple Moodle, SCORM, est-ce que vous pouvez un peu situer tous ces termes-là pour des gens qui ne connaissent pas trop, qui ont déjà entendu ces termes et qui voudraient essayer de comprendre un peu comment s'articule tout ça? Scénari, Moodle, SCORM, est-ce que...
Voilà. Katia?
Oui, oui. Moodle, c'est un LMS, Learning Management System, donc c'est une plateforme de formation qui permet de donner accès à un contenu à des gens. Donc ça permet de dire... ma cohorte d'étudiants peut accéder à tel ou tel document. Après, les documents qui sont déposés sur Moodle, souvent c'est du PDF, en tout cas sur l'utilisation de base. Après, à l'intérieur, on peut créer des quiz, des choses comme ça, mais on va souvent utiliser des outils pour créer du contenu. Et donc, Scénari est seulement un outil parmi tant d'autres pour créer du contenu. Et après, donc SCORM, en fait, c'est un format pour les documents de type e-learning, quoi, formation en ligne, qui permet de pouvoir tracer le parcours de l'apprenant dans son module de formation. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, Scénari permet de créer différents formats, et donc il permet de créer le bon format SCORM et avoir ainsi des remontées sur le parcours de l'apprenant dans son module de formation.
Donc tous ces outils-là sont complémentaires. Comment c'est plutôt Moodle quand on fait de la formation à distance qui est un peu la plateforme de base. Et puis donc Scénari permet de créer des contenus. SCORM est un outil qui permet de suivre l'évolution des personnes formées. C'est un petit peu comme ça.
Alors,
qu'il faut.
SCORM c'est une norme, c'est norme. Un format. Comme ça peut être un format PDF ou un format SCORM. C'est un format.
D'accord, c'est un format. Ok, ben, voilà. Ça m'éclaire.
Mais donc, effectivement, tous ces outils sont complémentaires et s'interfacent les uns avec les autres. Alors après, à chaque montée de version, il faut des fois recaler que la cohérence soit bonne entre les outils. Mais en tout cas, par exemple, nous, l'Université de Lille, on est des gros utilisateurs de Moodle pour donner accès au contenu, sur certaines composantes de Scénari pour pouvoir produire les contenus. Et par exemple, la gestion de la vidéo, on utilise Pod, qui est un outil de gestion de vidéo. Donc à chaque outil, en fait, ça fait sa spécialité.
Très bien. Et est-ce que... Alors du coup, je n'ai pas posé la question de savoir combien il y avait de modèles actuellement de Scénari qui étaient proposés par rapport à...
C'est une très bonne question.
Grosso modo, on n'a pas besoin du chiffre exact. Hein. Mais, et puis, du coup, peut-être que ça peut être intéressant, juste avant la pause, de présenter les principaux et leurs fonctionnalités, les raisons pour lesquelles ils ont été développés. Donc, alors, j'essaye de résumer. On a évoqué Topaz, qui permet de faire des espèces de... Alors, des livres dont vous êtes le héros, pour être très concret, par exemple, ça va parler aux gens. Dockiel, on a dit que c'était plutôt de la documentation. Ensuite, il y a Topaz. Topaz, je l'ai déjà dit, pardon. Enfin, je vous laisse.
Opal pour la formation en ligne. Voilà. Ensuite, parce qu'on a d'autres modèles dédiés à la formation, donc on a des outils qui permettent de plutôt faire des exercices. Donc il y avait Ruby dédié là-dessus. Il y a un modèle dédié pour les glossaires. On avait un modèle dédié pour l'analyse des processus qui s'appelait Process. Alors, je dis s'appelait parce que je ne sais pas s'il y a encore maintenu celui-ci.
Il a été mis à jour. Il fait partie de ceux qui sont encore maintenus. Alors si je prends le relais, parce qu'en même temps je regarde sur le site, on a un modèle documentaire qui a été développé par un enseignant de technologie collège, donc qui s'appelle Technopal, On a un nouveau modèle documentaire qui est utilisé dans la recherche qui s'appelle IDK, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui permet d'indexer, qui est utilisé en sciences et vie de la Terre pour construire des arbres de... J'ai pas les termes.
Des cartes mentales, enfin un peu. Ah oui, des arbres de classement.
Des arbres de classement.
Enfin, pas généalogique, mais du voilà, coup, d'espèces, des par exemple. Espèces. D'accord, ok.
Moi, il y a le modèle CanoProf qui a été développé pour le second degré. Et puis, je continue.
Dans les plus connus, il y a aussi Optime, parce que comme il n'est pas dédié à un site, celui-ci, il est plutôt pour faire des documents un peu génériques. Donc, c'est celui, par exemple, qui serait le plus utilisé pour créer le site web d'une association. Il n'est pas dédié à un contenu métier.
C'est sans doute peut-être celui par lequel il faut commencer si on veut appréhender un peu la puissance de Scénarii, non ?
Pour pouvoir faire quelque chose d'assez général, un site web de présentation d'une petite entreprise ou d'une association, Optime est tout à fait adapté.
C'est une bonne entrée en matière.
Et nous, on a utilisé également un modèle documentaire qui s'appelle WebMedia. Et WebMedia permet de faire de la vidéo enrichie. Donc en fait, on peut augmenter des vidéos. Alors nous, on s'en est servi pour... plutôt que de faire une simple enregistrement d'un séminaire, on a augmenté le séminaire et on a fait WebMedia permet de faire de la post-production en fait, sans forcément utiliser un outil vidéo, et on fait de la post-production multimédia. Donc on peut dans le flux vidéo qui est proposé dans WebMedia, rajouter des captures d'écran, mettre des liens hypertexte,
interagir,
proposer des interactions, augmenter en fait le contenu qui est proposé. Alors dans sa forme, il se présente comme un logiciel de vidéo. Donc en fait comme un logiciel, si je prends OpenShot, un logiciel libre qui permet de faire du montage vidéo, en fait vous avez un outil avec un système de timeline, et puis on coupe un petit morceau et puis on met on introduit des contenus à l'intérieur. Alors ce sont des choses qu'on peut faire dans Pod aussi. Là on a parlé de Pod, c'est des choses qu'on fait généralement en post-production maintenant. Et moi j'ai bien aimé cet outil-là parce qu'il permet de naviguer dans la vidéo. La vidéo qui est produite intègre un fil rouge, donc on peut aller picorer de façon dynamique dans le plan. On vous mettra quelques-unes de nos productions, vous verrez l'intérêt de la
lien
vidéo.
Dans la page de l'émission. Ouais. Donc finalement, une grande diversité de modèles, hein, finalement, pour répondre justement à des besoins et éviter de se prendre la tête sur la forme. Donc je pense que ça montre bien la diversité et puis la maturité finalement de Scénarii, la base, au départ. Je pense qu'on va rester là pour l'instant, on va faire une petite pause musicale. Enfin, je repasse la parole à Isabella.
Merci Laurent. Nous allons écouter effectivement un morceau de musique pour notre pause. Il s'agit de Pantru Bani par Sol Orchestar. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Altul în pădure și unul pentru bani, pentru bani, pentru bani, dacă ți Amper, care tu resti in zara, fără vă pe duoghi, atragă femei, cu amua nu apărărie, ce ar spune iar atunci, de nume cu apură. Fericit, de vrem ce nu m-am păr, chiar tu resti în țară, vrava pe ochii, atragă femei, cu amă nu apărărie, ce ar spune iar atunci și de nume cu apură.
Nous venons d'écouter Peintre banni par Soleil Kestal, disponible sous licence libre Art Libre, en sachant que ce que nous venons d'écouter est un extrait d'une vidéo qui dure 6 minutes. C'est un vrai petit film. Vous avez la référence sur la page de consacrée à l'émission, si vous êtes curieux, donc libreavoue.org/166.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavagny de l'April, Laurent Costi, chargé de mission éducation et com numérique au CMEA, anime un sujet consacré à la chaîne éditoriale libre Scénari avec ses deux personnes invitées, Jean-Sébastien Barboteux, chargé de mission et formateur académique à la délégation académique au numérique éducatif du rectorat de Versailles, et Katia Kelnek, ingénieure pédagogique à la direction d'appui à la pédagogie et l'innovation de l'Université de Lille, également vice-présidente de l'association Scénari. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sous le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Laurent?
Merci Isabella. Alors dans la première partie de l'émission, on a essayé d'expliquer ce qu'était une chaîne éditoriale. Je pense qu'on a éclairé un peu les gens qui ne connaîtraient pas ce concept. Et on a essayé de montrer un peu les avantages que pouvait avoir une chaîne éditoriale par rapport à des traitements de texte comme on les connaît en général au quotidien. On va s'intéresser dans la deuxième partie de l'émission peut-être à la question de la technicité, les limites d'une chaîne éditoriale. Et puis... On va échanger aussi sur des exemples un peu concrets pour illustrer justement l'usage qu'on peut avoir d'une chaîne éditoriale. Alors par rapport à la question de la technicité, de la formation, si on devait se mettre à la place d'une association, quelles compétences il faut pour pouvoir utiliser Scénari? Qui veut répondre? Jean-Sébastien?
Des compétences pour utiliser Scénari, ça dépend d'où on part, c'est toujours le même sujet, c'est que on a souvent des habiletés à utiliser certains outils et on ignore réellement souvent les compétences qui sont associées. Donc je dirais que si on a déjà publié sur internet, sur des sites web, écrit sur des forums ou des choses comme ça, l'essentiel est déjà fait, le reste est dans la structure.
D'accord, très bien. Et alors, à quel besoin, au pluriel, j'imagine, Scénari peut répondre pour une association?
Alors, pour une association, j'ai au moins un exemple en tête qui est l'association Samba Edu qui utilise le moteur Optime pour générer son site web. Donc, toute sa communication. Toute la documentation qui est associée au projet est publiée dans un mini site web qui est généré par Scénari Optime, et leur documentation, donc toute la documentation du logiciel est faite avec le modèle documentaire Docquiel. Puis les deux s'emboîtent tout naturellement. Quand on navigue à l'intérieur, on voit rien, c'est totalement transparent.
Totalement transparent. Donc ils ont écrit une fois finalement une documentation et puis ils peuvent le projeter sur un site internet et puis effectivement imprimer un PDF. Quoi. C'est un petit peu...
Alors l'idée c'est d'avoir plusieurs formats de sortie. Donc en fait ils ont un format de consultation qui est en ligne, qui est souvent la dernière version qui a été composée, mise à jour. Et après, sont proposées des versions PDF qui sont des instantés de la documentation. Alors, instantés, c'est souvent la dernière version installée.
Merci. Alors, moi, je peux peut-être illustrer de manière complémentaire justement ce qu'on avait fait il y a 10 ans à la Fédération régionale des MJC. En fait, on avait demandé une structuration pour pouvoir interpeller chaque MJC du réseau de Bourgogne-Franche-Comté pour présenter le projet phare de leur année. Donc on avait le titre du projet, on avait l'objectif en quelques lignes du projet. Et puis une description après du projet et une image liée au projet. Et finalement, on leur donnait ce canevas-là dans Scénari et elles n'avaient plus qu'à nourrir vraiment en termes de matière le canevas qui avait été préparé. Et du coup, on a pu produire après effectivement un site web avec la présentation de tous les projets et puis un document papier, faire imprimer un document papier qui correspondait à ce besoin-là.
Alors, en déclinaison, hein, pour rebondir un peu sur votre exemple, on a des enseignants qui utilisent le modèle Optime pour les rapports de stage de troisième. Donc en fait, l'enseignant produit une structure de rapport. Les élèves ont la structure et donc les élèves complètent la structure du document et tout le monde produit le même document. Ce sont des choses qui sont possibles également.
D'accord. Et alors du coup, qu'en pensent les étudiants quand ils doivent justement utiliser cet outil? On va poser la question à Katia. Et comment ils se l'approprient finalement cet outil?
Alors du coup, nous, les étudiants utilisent peu Scénari, ils sont plutôt utilisateurs des ressources produites avec Scénari. Peut-être que Jean-Sébastien pourra mieux répondre. Par contre, je peux compléter après sur la partie collaboration.
L'exemple de produire avec Optime, en fait, c'est un des rares exemples que j'ai. En fait, nous, dans ce qu'on fait, on consomme des contenus produits avec Scénari, nous aussi, dans l'éducation, que ce soit des contenus qui sont déposés sur la plateforme Magistère, qui est le Moodle pour les enseignants, ou que ce soit la plateforme Elea, qui est le Moodle pour les élèves. On produit des contenus, on met le résultat du travail de conception, en fait. C'est peut-être ce qui différencie beaucoup Scénari d'autres outils, c'est que on a un côté auteur et un côté utilisateur. Et c'est souvent ce qui déstabilise les collègues, c'est qu'ils ont souvent l'habitude d'avoir le résultat en temps réel devant eux, or dans une chaîne éditoriale ou quand on produit un contenu de formation, quand on fait une formation, on n'a pas de vue globale, en fait on a l'architecture et le résultat on l'a que quand on appuie sur le bouton.
D'accord. Merci pour cet éclairage. Alors, je voulais poser la question de savoir s'il y avait des formations à Scénari. Alors, tu en as évoqué évidemment pour Canoprof hein, tout à l'heure, mais d'une manière plus générale, si, je sais pas moi, quelques membres d'associations veulent se former à Scénari, il faut s'adresser. Alors, on a évoqué Kélis au début, qui était la structure qui a porté au départ Scénari. Est-ce qu'il y a d'autres voies pour se former? Je vous cache pas que je pose la question aussi de manière intéressée. Hein. Je m'étais inscrit à une formation. Bon, et après, j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait beaucoup plus de personnes pour pouvoir maintenir la formation. Donc finalement, j'étais un peu déçu. J'ai pas pu tenir la formation dans un premier temps. Je vais continuer, évidemment, je vais persévérer. Mais du coup, je suis intéressé par votre éclairage.
Alors du coup, il y a plusieurs solutions pour se former à Scénari. Effectivement, Kélis est l'éditeur principal, mais il y a d'autres prestataires aussi qui peuvent former à Scénari. Donc là, sur le site de l'association scénari.org, on a une page avec tous les prestataires et qui présente ce qu'ils proposent. Mais après aussi, il y a pas mal de ressources libres qui sont toutes listées dans une page dédiée à tous les tutoriels qui ont été produits par rapport à Scénari. Alors selon les modèles, selon s'il y a beaucoup d'utilisation ou pas, il y a plus de formations qui sont proposées. Et puis après aussi, pendant les rencontres Scénari, c'est un moment où il y a souvent des ateliers pour justement découvrir, prendre en main certains modèles. Et échanger avec d'autres utilisateurs, et c'est un très bon moyen de se former et de découvrir. On a beaucoup de gens qui débutent avec Scénari lors des rencontres Scénari qui ont lieu chaque année.
Bah alors du coup, peut-être que vous pouvez nous parler un peu plus longuement de ce que sont les rencontres Scénari.
Donc les rencontres Scénari, c'est un événement annuel qui réunit la communauté et ceux qui veulent le découvrir, et qui se passe en plusieurs temps. Généralement, il y a une journée avant avec des ateliers. Alors avec les formations sur les principaux modèles, découverte des prochains scénarios, donc souvent on voit en avant-première les prochaines interfaces, les prochaines fonctionnalités. qui sont mises à disposition de la communauté, et puis après des temps de retour d'expérience, d'échange, plus ou moins techniques, plus ou moins pédagogiques, et puis même aussi, on a chaque année aussi un temps de conférence sur différents sujets, donc par exemple l'année dernière, en 2022, on avait une question sur les low-tech, qui était très intéressante, et qui rejoignait l'introduction de l'émission d'aujourd'hui.
De Vincent Calam, tout à fait.
Je voulais rebondir, si possible, sur les rencontres Scénarii. Je m'intéresse à la vie associative, aux événements déjà dans le cadre de l'April. Donc, si j'ai bien compris, c'est ouvert à tout le monde, pas que membres de l'association. Et est-ce que vous savez déjà quand ils se tiendront les prochaines rencontres et où?
Alors oui, ça sera à Paris en juin. Je vais vérifier pour la date.
C'est intéressant, ça peut intéresser nos auditeurs, auditrices, Francilia, Francilienne.
Oui, alors en plus, bon, c'est aussi possible de d'assister en ligne, sauf pour les ateliers de prise en main, parce que c'est moins adapté, c'est aussi moins intéressant. Donc, normalement, les rencontres scénarii auront lieu les 15 et 16 juin au CNAM à Paris, cette année. Et après, si vous allez sur le site web de l'association, vous pouvez aller retrouver les présentations des années précédentes. Donc, vous nous retrouvez, hein, Jean-Sébastien et moi, sur nos différentes activités. Et ça permet aussi de découvrir comment utiliser les autres scénarii.
Elles ont lieu depuis quand, ces présentations?
Donc, depuis 2013. Alors, après, on a une petite interruption sur la partie présentielle. Mais même pendant la pandémie, on s'est retrouvés en ligne chaque année. Alors, il y a, on va dire, un format petite rencontre sur une journée, une année sur deux. Et un format 3 jours, une année sur deux, là on prend plus de temps.
Merci, bon, effectivement ça intéressera sans doute quelques auditeurs et auditrices que ces rencontres. Merci pour ces précisions. Alors moi je voulais revenir peut-être sur la question de la forme et du fond. Est-ce que finalement ça a une limite que de vouloir séparer le fond et la forme? Est-ce que c'est difficile parfois et quelle est la difficulté avec cette limite, s'il y en a une?
Alors effectivement, pour des auteurs qui ont vraiment l'habitude de pouvoir tout personnaliser, il faut faire un peu un deuil de « je maîtrise la forme ». Mais moi, je trouve que c'est un gros avantage. Par exemple, quand on est dans une institution et qu'on veut avoir quelque chose de cohérent, je prends l'exemple de l'Université de Lille, on a pu travailler avec nos services infographie qui a proposé une charte graphique très très belle qui est accessible avec un mode pour la dyslexie, une intégration très poussée, et donc ça permet d'avoir un univers vraiment à nous. Mais après, c'est vrai que dans certains cas, sur des projets spécifiques avec plusieurs partenaires, on veut donner une identité graphique, et là, alors ça demande certaines compétences informatiques ou faire appel à un prestataire, donc on fait régulièrement appel à des prestataires pour un coût tout à fait raisonnable, et créer un univers graphique dédié, où là on voit plus que c'est un module scénarii, mais on voit une mise en forme dédiée pour un univers précis.
Voilà, et une fois que c'est fait, effectivement, après, on n'a plus du tout à se poser la question de la forme. Alors moi, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, effectivement, j'avais été un peu limité par ça, parce que j'avais ce travers, finalement, quelque part, de vouloir en même temps avoir ce fond et la forme. Alors, je crois qu'il y a un module qui est né, qui s'appelle Scénarii Stealer, qui permet justement peut-être de faire un premier paramétrage, de sortir vraiment du modèle basique présenté, et qui permet déjà de faire des aménagements très satisfaisants pour pouvoir avancer après, essentiellement sur le fond. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ou...
Alors c'est vrai que sur la dernière version de Scénarii Styler permet d'aller faire quelques adaptations, alors minimes, mais qui permet de un peu passer cette frustration de dire je ne peux rien changer. Donc là, on peut aller changer quelques éléments. Moi, j'avoue que j'ai peu testé, mais j'ai vu qu'il y avait eu un très très bon accueil sur cette nouvelle version de Scénarii Styler aux dernières rencontres Scénarii, donc je suis sûre que ça sera un succès. Et à mon avis, on en discutera pas mal aux prochaines rencontres sur les retours d'usage de ceux qui se le sont appropriés.
Pour compléter, j'ai dans mes chantiers de faire une maquette pour le rectorat, et donc je me suis penché un peu sur ce nouvel outil. Et en fait, contrairement à l'ancienne mouture, on a trois façons de rentrer dans la personnalisation de l'apparence des contenus produits, que ce soit les PDF ou les mini-sites web. Donc on a un mode ultra simple sur lequel on peut, avec un assistant, jouer sur les couleurs. On a un mode un peu plus évolué dans lequel on va vous proposer des mécanismes un peu plus avancés. Et puis après, on a le mode expert qui correspond en fait à ce qu'on faisait avant. Alors, en termes de compétences, en fait, si on a déjà conçu des sites web, c'est des compétences liées à la création de contenu sur Internet. Donc, si on sait ce que veut dire une feuille de style,
CSS,
si on sait ce que veut dire JavaScript, ben, on a quasiment toutes les compétences pour pouvoir arriver à ses fins. Il faut juste un peu de temps pour entrer dans le modèle documentaire qu'on veut personnaliser, puisque comme chaque modèle documentaire a une structure XML, a fait une structure, une architecture différente, il faut s'approprier un peu tous les petits codes qui traînent, mais n'importe quel développeur de page web est capable, de, à mon avis, de personnaliser.
D'accord. Alors moi, je trouve que c'est intéressant justement pour éviter de frustrer les gens qui avaient déjà une petite sensibilité, et ça va leur permettre de faire des petites modifications, tout en sachant qu'effectivement, la finalité, c'est quand même de cibler vraiment le travail sur le fond. Moi, ça, je reste convaincu que c'est une approche extrêmement intéressante pour éviter de mélanger finalement les compétences. Hein. C'est mettre en forme, c'est pas la même compétence que de produire du fond. Hein. C'est pas les mêmes métiers, donc c'est important peut-être de remettre ça sur le devant de la scène, hein, cette séparation des compétences, parce que effectivement, dans certaines associations, on a vite éludé la question du secrétariat ou de la compétence de mettre en forme. Mais encore une fois, c'est bien deux métiers différents. Donc on a parlé un peu des limites, des modèles.
Moi j'aurais voulu revenir sur la collaboration, si je peux compléter.
Bien sûr, oui, tout à
ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure.
Oui, très bien.
Donc en fait, alors c'est une chaîne éditoriale, il en existe d'autres, hein, mais moi je trouve vraiment son point fort et sur la partie collaborative. J'ai un projet qui a démarré de rédaction de la documentation de Moodle. Parce que donc les universités, on accompagne nos utilisateurs. Certains ont des tutoriels vraiment pour chaque activité. D'autres ont un énorme guide qui explique tout. Mais sauf que pratiquement toutes les universités en France utilisent Moodle. Et donc chacun rédigeait sa documentation dans son coin. Et donc là, on a monté un projet de rédaction commune de cette documentation. Et donc ce qu'on a fait, on a utilisé Scenari avec un atelier d'hôtel. Donc le modèle qui permet de faire les documentations informatiques, sauf qu'on avait besoin d'adapter pour chacun, parce qu'on a besoin de mettre des captures d'écran, on n'a pas les mêmes logos, pas les mêmes chartes graphiques. Et donc ça permet de découper où chacun participe à l'édifice global et de pouvoir dériver, on va dire, les ateliers et de pouvoir personnaliser certains éléments pour qu'on ait chacun notre doc un peu spécifique à nous quand ça a besoin d'être spécifique. On peut même aller préciser certains termes. Parce que par exemple, certains ont des étudiants, d'autres ont des auditeurs, d'autres ont des élèves. Et là, on peut mettre des variables qui automatiquement met le bon mot selon le contexte. Donc ce point de vue de collaboration est très très fort. Il est aussi possible de mettre des workflows de validation, de savoir si une partie du document a été relue, validée. Il y a un système de commentaires. Ça, c'est vraiment un point fort qui est très très riche et très très intéressant, je pense, dans l'outil Scenari.
Alors effectivement, de mémoire, il y a une dizaine d'années, la mise en place d'un serveur pour collaborer justement avec l'outil Scenari me semblait un peu complexe. Donc du coup, ça veut dire que ça a beaucoup évolué. Est-ce que c'est une conséquence de My Scenari qu'on évoquait tout à l'heure?
Comment ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment là où l'association a rendu, je pense, un énorme service à la communauté. C'est qu'aujourd'hui, parce qu'avant, il fallait, pour installer un serveur Scenari, là, il fallait des ingénieurs système qui allaient mettre à disposition un serveur, et tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça. Alors que là, aujourd'hui, avec My Scenari, on peut bénéficier de toutes les fonctionnalités d'un serveur Scenari sans avoir à installer, juste en adhérant à l'association. Et l'adhésion, je crois, pour les personnes physiques, c'est 15 euros, donc c'est assez raisonnable. Et donc, on peut après, justement, bénéficier de toutes ces options de collaboration, de donner des droits aussi différents, de lecteurs, d'auteurs, et pouvoir, justement, travailler en collaboration beaucoup plus facilement.
Oui, là, on se retrouve typiquement dans un CMS comme WordPress, un CMS Content Management System comme WordPress qui serait partagé avec l'ensemble des membres de la, enfin, avec l'ensemble ou avec quelques-uns des membres de l'association et qui pourrait finalement bah, mettre à jour le site internet en direct live de l'association. Donc, on a cette capacité désormais avec MyScenary d'être très réactif et surtout de partager la rédaction des contenus. C'est extrêmement intéressant.
Oui, et puis une grande évolution aussi, parce que si tu as utilisé il y a 10 ans, avant on était obligé de passer par l'éditeur qui était, c'est un éditeur je crois qui a été conçu il y a 20 ans, donc qui nécessitait une certaine prise en main, alors que maintenant l'éditeur qui est web est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile de prise en main. Moi je le vois, je forme sur Scénary depuis 15 ans, et les formations que je donne aujourd'hui par rapport à celles d'il y a 10 ans ne sont plus les mêmes. Et en plus il y a un mode d'édition où on ne travaille pas du tout sur la structure, on est directement sur le rendu final, on appuie sur un petit crayon et hop, on peut aller modifier une partie du texte. Donc on peut même avoir deux modalités d'édition.
Extrêmement intéressant. Jean-Sébastien, tu as des choses à rajouter par rapport à MyScenary? Est-ce que toi tu le pratiques?
Alors moi je ne pratique que MyScenary, je fais tout dans mon navigateur internet. C'est ce qui a permis de lever beaucoup de freins, parce qu'en fait, nous, dans l'éducation, on n'est pas forcément administrateur de son ordinateur, donc on n'a pas forcément le droit d'installer des logiciels. Et l'arrivée de MyScenary a permis de débloquer cette situation-là et a permis quelques collaborations. Après, il faut que les collègues aient un même centre d'intérêt que nous. Donc quand on travaille documentation, généralement, on vient me voir et puis on construit... Dans MyScenary.
Et du coup, on parlait de formation CanoProf par exemple. Comment les profs connaissent Scénary et comment ils viennent à la formation? Il y en a beaucoup. Comment ils connaissent Scénary? Alors, vous hésitez là-dessus?
Là-dessus, c'est essentiellement de la communication qui est faite par le réseau Canopé ou par nos experts pédagogiques. Nous, dans l'académie, on a un groupe d'experts pédagogiques. On a des groupes, puisqu'en fait, chaque discipline a son groupe d'experts. Et donc, on a quelques groupes d'experts qui investissent ce sujet-là. Et dans leur mission de production de contenu, ils partagent ce qu'ils ont fait. Donc, je vous mettrai en lien dans la page du site, hein, une ou deux productions faites par des collègues en sciences et vie de la terre, de la vie et de la terre, pardon. Une collègue qui a utilisé l'outil pendant le confinement et ça l'a bien sauvé pour les élèves déconnectés, puisqu'en fait, elle était en capacité elle avait produit un document qui pouvait être utilisé dans Elea pour ceux qui avaient un accès Internet. Et ensuite, elle avait généré des versions PDF pour les élèves qui étaient déconnectés. Et donc, ils avaient accès au même contenu dans deux modalités différentes. Mmh. Mais pour l'enseignante, le contenu a été travaillé qu'une seule fois.
Oui, ça c'est précieux. Ça, c'est clair que ça peut convaincre. Est-ce que vous avez une idée un peu du futur de Scénary? Comment ça va évoluer? Quelles sont les pistes un peu de travail? Alors, faudrait aller aux rencontres, hein, j'ai bien compris, et c'est dans ces rencontres que sont dévoilées un peu les futures fonctionnalités. Mais finalement, est-ce que vous êtes en capacité de nous en dire un peu plus? Quelles sont les voies qui sont privilégiées pour le développement de Scénary?
Alors là-dessus, on a eu des présentations aux dernières rencontres. Et puis, l'association permet de lancer des projets exploratoires, justement, pour pousser sur les questions. Et donc, un des points qui est souvent remonté, c'est quand on n'a pas de LMS, pas de plateforme de formation type Moodle.
Alors, LMS, Learning Management System.
Learning Management System, ça peut être compliqué. Et donc, une proposition qui serait Parcours, donc en cours d'expérimentation sur différents établissements, qui permet, à partir d'un serveur Scénary, de pouvoir aller directement créer cet espace où des étudiants, des apprenants peuvent se connecter et suivre la formation. Donc ça a déjà été en fait expérimenté dans le cadre des cours de libre cours de Stéphane Croza, un grand acteur du libre. Et donc on s'appuie, donc là c'est aussi dans les projets exploratoires de Kélis, il s'appuie sur les développements qui ont été faits dans ce cadre-là pour encore une fois les partager librement. Et donc Parcours est en train de tester justement pour pouvoir proposer cette évolution qui, à mon avis, pourrait répondre quand même à pas mal d'utilisateurs.
Très bien, bah, on attend avec impatience la mise en production, entre guillemets, de ces modules. Il nous reste 5 minutes là pour échanger peut-être sur les choses que vous auriez oublié de nous dire et que vous avez envie de partager avec les auditeurs et les auditrices. Alors, je sais pas, je passe d'abord la parole à Jean-Sébastien.
Sur le logiciel libre, de façon générale...
Tu peux élargir au logiciel libre si tu as envie.
Je peux élargir. Hein.
Oui, parce que après, c'est vrai qu'avec à l'Académie de Versailles, il y a eu pas mal de projets extrêmement intéressants qui ont été initiés. Donc, tu peux nous en parler.
Dans l'Académie de Versailles, en fait, on a une culture d'utilisation du logiciel libre et de contribution du logiciel libre. Alors, ça s'est fait d'abord par les sites web d'établissement, avec le déploiement de SPIP, mais aussi la ferme de blogs qui fonctionne sur .clear, qui est toujours en fonction et qui a sauvé beaucoup d'enseignants pendant le confinement, puisque dans le premier degré, nos collègues n'ont pas forcément d'ENT, d'espace numérique de travail, et donc ont eu droit à un service de logiciel libre là-dessus. Sur le sujet de scénarii, nous, dans le second degré, on avance plutôt côté enseignant sur le modèle CanoProf, avec une volonté de proposer un outil un peu plus abordable en termes d'ingénierie pour les collègues du second degré qui n'ont pas la culture de la formation en ligne. Nous, côté académique formation, utiliser Scénarii pour une de ses vertus qui est d'être capable de proposer des contenus de micro-formation, de micro-learning assez rapidement et assez efficacement. Donc c'est un de mes chantiers de l'année, arriver à faire des modules de micro-learning. On en a fait un ou deux pour les familles pendant le confinement, puisqu'on avait conçu un module de formation pour accompagner les parents des collégiens des Yvelines qui avaient été pour lesquels le département avait prêté des tablettes tactiles. Donc on a conçu comme ça un petit module qui permettait aux parents de prendre en main la tablette et de pouvoir l'utiliser. Donc on va, je pense, beaucoup continuer sur ces documents d'accompagnement. Et après, je suis impatient de voir ce qu'on va pouvoir faire avec Parcours.
Très bien, merci Jean-Sébastien. Katia, pour conclure ce sujet long sur Scénarii, ou plus largement, tu peux élargir aussi si tu le souhaites.
Eh bien donc, merci beaucoup de nous avoir reçus. Moi, je vais conclure plutôt côté association Scénarii. C'est une association qui est là pour accompagner, promouvoir. Donc, effectivement, si vous pouvez venir aux rencontres Scénarii, on est toujours ravis de rencontrer... peut-être de futurs utilisateurs, ou venir questionner les usages que nous avons, les fonctionnalités qu'il y a, parce que c'est comme ça qu'on avance. Effectivement, je pense que Scénarii apporte sa pierre à l'édifice, et merci de nous avoir laissé cette fenêtre pour le présenter.
Eh bien, merci Katia, merci Jean-Sébastien pour ces échanges autour de Scénarii, chaîne éditoriale, qui permet la collaboration et puis qui permet aussi de se focaliser sur la production de contenu et non pas seulement sur la forme. Je repasse la parole à Isabella.
Merci Laurent, merci à nos deux personnes invitées d'aujourd'hui pour ce sujet. Il y a énormément de références sur la page consacrée à l'émission, donc libravou.org/166. Donc si vous voulez approfondir, il y a beaucoup de matière. Et on rappelle justement la rencontre Scénarii, donc 15 et 16 juin, si j'ai bien retenu, au CNAM de Paris. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de l'initiative Libre en Fête. Nous allons donc écouter Duvelvan la vida par El Violinista del Amor et Los Pibes que Miran. J'espère avoir bien prononcé, on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Que
el
cielo que hoy separe mi ventana que el ángel que supo convencer a toda una nación. De aquella gran verdad. Este no soy yo.
Eso es agresiva.
¿Qué podía
ser?
Eso es agresiva. Y supe más que adentrarme de camino. Y entendí lobos y corderos. destino y entendí que ya es un poco tarde para pedir perdón.
Pero este no soy yo.
Nous venons d'écouter Devuel Vanley, La Vida, par El Violinista de la Mort et Los Pibes que Miraban, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Isabelle Lavani de l'April, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Le Libre fait sa com, que normalement j'anime, aujourd'hui consacrée à l'initiative Libre en Fête. J'ai profité de la présence de Laurent Costier au studio pour lui demander gentiment de m'interviewer à ce sujet. Il a accepté, donc je passe la parole à Laurent pour les questions.
Alors Isabella, je vais t'interviewer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Libre en Fête, s'il te plaît ?
Donc le Libre en Fête est une initiative qui a pour objectif, pour but de sensibiliser le grand public au logiciel libre, à l'informatique libre, à la culture libre plus en général, via de nombreux événements qui sont organisés partout en France autour du 20 mars, donc à l'arrivée du printemps, dans une dynamique si possible conviviale et festive. C'est une initiative qui est portée et coordonnée par l'April et qui a lieu chaque année depuis 2002. Donc cette année, en 2023, on arrive à sa 22e édition. Et plus précisément, cette année, donc en 2023, le Libre en Fête se déroulera sur environ 4 semaines, du samedi 4 mars au dimanche 2 avril.
Alors tu me parles du samedi 4 mars pour le début de Libre en Fête, mais on n'est que le 24 janvier, normalement dans les associations on s'y prend deux jours avant.
C'est vrai, c'est une très bonne question, c'est pour ça que je l'ai écrite. Effectivement, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que les événements, comme tu dis, dans les associations sont préparés deux jours avant, généralement.
On va avoir du retour sur le chat pour une
on
fois,
va avoir des retours. Non, il y a des associations très sérieuses qui se prennent bien à l'avance. C'est pour cette raison qu'on en parle aujourd'hui, parce que nous avons lancé la campagne de mobilisation. Donc on a publié un appel à participation sur le site de l'April en début d'année. Donc cette fois, c'est l'April qui se prend un peu en retard. Normalement, on arrive à le publier un mois plus tôt, mais c'est pas très bien grave.
Alors du coup, à qui s'adresse l'appel à participation plus particulièrement ?
Donc l'appel à participation, c'est pour toute organisation, tout simplement, qui souhaite agir en faveur du logiciel libre, de l'informatique libre, de la culture libre en général. Nous ciblons bien évidemment les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, autrement appelés GULL, G-U-L-L pour faire plus vite, qui sont des associations. On a la chance en France d'en avoir énormément sur tout le territoire. Donc, ce sont des associations locales. La plupart des fois sont gérées par des bénévoles qui donnent de leur temps justement pour aider les personnes à installer les logiciels libres, ou tout simplement à savoir les connaître, savoir ce que ce sont, à les découvrir. Et ils font ça pendant toute l'année. Donc, mais ça, c'est vraiment des associations qui sont expertes en logiciels libres. Cet appel, l'appel que nous faisons pour la participation Libre Fête, est adressé aussi à d'autres organisations qui sont censées être intéressées à la sensibilisation au libre, dès par leur culture, dès par le fait qu'ils ont du matériel informatique à disposition, dès par le fait qu'ils sont intéressés à l'émancipation des utilisateurs et des utilisatrices de l'informatique. Et donc, cet appel s'adresse aussi, par exemple, aux espaces publics numériques, aux bibliothèques et médiathèques, aux clubs informatiques, au Fab Lab et à Carespace. Ça peut être aussi les centres sociaux et culturels, ça peut être des cafés associatifs. toute organisation peut participer.
Oui, on peut prendre l'exemple très concret. En fait, tu scrutes le web à la recherche d'actions de ce type qui peuvent être promues, on va dire. Et du coup, tu as repéré finalement ce que font les CMA Pays de Loire sur justement la question autour du libre. Et du coup, on les a encouragés. Mais c'est vrai que ces associations-là ne se sentent pas forcément légitimes à être dans Libre, en fait. Donc, c'est une bonne occasion. Donc, on appelle toutes ces associations-là qui font des actions autour du libre et qui ont toute légitimité à être promues dans le cadre de Libre, en fait.
Et puis c'est l'occasion aussi éventuellement de préparer des événements avec l'EGUL. Vous pouvez aller sur le site consacré au Libre en Fête, donc libreenfete-entrechaquemont.net, et là vous trouvez une page organisation où vous pouvez effectivement trouver des partenaires, notamment des EGUL, des groupes d'utilisateurs utilisatrices de logiciels libres avec qui monter éventuellement un événement ensemble. Et il y a des types d'activités qui peuvent être proposées pendant le Libre en Fête, qui ne nécessite pas forcément une expertise, par exemple une exposition sur le logiciel libre. On parle de l'expo libre parce que c'est une ressource produite par l'April, mais ça peut être aussi une autre exposition. Ça peut être la projection d'un film. On a évoqué tout à l'heure la bataille du libre, je crois, de Philippe Borel. Ça peut être, par
LOL,
exemple,
une affaire sérieuse.
LOL, une affaire sérieuse, tout à fait, qui en plus est disponible maintenant gratuitement en ligne. Donc, il n'y a pas besoin d'être des experts ou des geeks pour organiser un événement. Il faut juste un peu de bonne volonté. Vu que je suis en train de... Oui.
Oui, il fallait une envie. Et du coup, le rôle de l'April là-dedans ?
Donc, le rôle de l'April, déjà, comme j'ai dit, on lance cette initiative chaque année depuis 22 ans. Donc, on met à disposition un site internet qui permet à la fois de donner des informations pratiques sur comment organiser, sur comment proposer un événement dans le cadre de cette initiative, mais qui est aussi à la fois un site où sont listés tous les événements. Donc, à l'approche du début du Libre en Fête, on va vous rappeler aussi à l'antenne que cette fois pour le grand public, que le grand public peut trouver des événements de découverte justement en consultant le site du Libre en Fête. Et puis on met à disposition des ressources de communication, d'ailleurs très chouette, hein, on a une nouvelle identité visuelle depuis l'année dernière, depuis l'édition de 2022, qui a été créée par notre graphiste bénévole Anton Bardelli. Et donc vous pouvez aussi télécharger les logos, les bannières, une affiche personnalisable, voilà.
Bien écoute, je crois que j'arrive au bout des questions que tu m'avais préparées, Isabella, donc je te repasse la parole.
Merci. Juste la chose importante, c'est rappeler donc le site libreenfete-entrechaquemont.net. Donc là, vous trouvez justement la page organisation. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Il y a aussi une liste de diffusion qui est à disposition pour les personnes qui organisent l'événement, pour pouvoir échanger et aussi recevoir les actus. Je pense que j'ai fait le tour, sauf s'il y a d'autres questions, je regarde sur le web chat, mais je vois pas. Voilà, je pense que c'est terminé. Merci Laurent pour ta collaboration. Donc nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Il ne reste plus que 2 jours pour répondre à notre questionnaire pour connaître l'auditorat de Libre à vous. Le questionnaire, en fait, est ouvert jusqu'à demain, mercredi 25 janvier. 5 minutes suffisent pour répondre aux différentes questions. Et même si c'est la toute première émission de Libre à vous que vous écoutez, vos réponses nous seront très précieuses pour nous améliorer. Donc, n'hésitez surtout pas. Une soirée de contribution au Libre est organisée par l'association Parinux jeudi 26 janvier à partir de 19h30 à la Générale, à Paris 14. Et toujours à Paris 14, l'April organise le prochain apéro April francilien. Donc c'est le 27 janvier, vendredi, à partir de 19h dans nos locaux. Si vous ne pouvez pas participer à cet apéro, sachez que l'April organise un apéro dans ses locaux une fois par mois. Donc vous pouvez retenter le mois suivant. Et c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez membre de l'April ou pas. En fait, c'est une occasion de se rencontrer entre membres, mais c'est l'occasion aussi de venir découvrir l'April, l'association et ses actions. Les rencontres hivernales du Libre auront lieu du 27 au 29 janvier à Saint-Sergues en Suisse. Il sera possible de suivre l'événement à distance. Deux rendez-vous pour se faire aider à libérer son ordinateur portable sont prévus samedi 28 janvier après-midi à elle-même Lille avec la coopérative de services informatiques en logiciel libre CLIS21 et à Marseille avec l'association Cercle. Vous pouvez retrouver tous les détails de ces événements sur la page consacrée à la présente émission libreavoue.org/166 et je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Vincent Calame, Laurent Costi, Jean-Sébastien Barboteux, Katia Kelnek. Aux manettes de la régie aujourd'hui, mon collègue Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Linguen, Julien Osman, Bénévole à l'April et Olivier Gréco, qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, Bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Il n'y aura pas d'émission mardi 31 janvier. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 7 février à 15h30. Notre sujet principal portera normalement sur les solutions libres d'apprentissage et d'enseignement en ligne. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 7 février et d'ici là, portez-vous bien.